Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Ce qui ne nous tue pas nous rendra plus fort. Certes, on a vu le pire, mais on n'est pas mort. À la douleur, on invente de nouvelles couleurs face à l'abîme de l'indifférence. Pour un monde meilleur, nous ne serons pas des victimes aux prolongations. Notre seule vérité, c'est notre action. Pas le temps de pleurer sur le mort. On va conjurer le mauvais sort avec la force de l'amour et avec nos efforts.
Oh yeah, on est la justice.
Oh yeah.
Sa part d'humanité pour rebâtir notre unité. Nous avons tous un rôle à jouer pour soigner les âmes brisées. Nous chanterons pour les oublier, les bras cassés, les humilier. Quoi, tu crois que t'es mieux que les autres? Commence d'abord par être le meilleur de toi-même, on est d'accord. Il est temps plus que jamais d'honorer la mémoire de ceux qui sont sacrifiés pour nous et de changer l'histoire qui stresse devant nous.
Oh yeah,
who are more justice?
Oh yeah,
who are more love?
Oh yeah,
what about equity?
Oh yeah,
do you want the truth?
Oh yeah,
who are more justice?
Oh yeah,
you want more love?
Oh yeah,
what about unity?
Oh yeah,
you want?
Oh yeah, parce que tout le monde est relié dans le même.
Mais nous pourrons lutter. Le passé n'a pas fait de cadeau qui va nous guider. L'homme met ses épreuves à la quête d'une vie, c'est le sauve qui peut. Le malheur et le bonheur, la cité de Dieu. Tous les machins de la mort, voilà la défaite de l'amour. Écoute ces âmes meurtries au secours. Les go pouf, les gueules, c'est à qui le tour. Faisons face à l'indifférence et la misère. On veut la justice, la paix, pas la guerre. On est en marche, pas une pause. Pas de recul, c'est plus qu'une dose. Les doutes et les désespoirs, on les a bannis. À part l'ignorance et la peur, c'est la panique. On met le paquet, on est au taquet sur le pavé. On va se lever, oh yeah, oh yeah.
Yeah.
Vous voulez la justice,
oh yeah.
Vous voulez mon love,
oh yeah.
Vous voulez de l'équité,
oh yeah.
Vous voulez de truth,
oh yeah.
Vous voulez de l'amour,
oh yeah.
Vous voulez mon justice,
oh yeah.
Vous voulez de l'unité,
oh yeah.
Oh yeah,
oh yeah,
oh yeah, oh yeah,
oh yeah.
Allons-y avec nos talentueux fils d'Afrique, et c'est toujours un plaisir de les accueillir sur le plateau d'Africa Radio pour parler un peu de leur actualité. Et puis, se voir hein, tout simplement pour partager un moment. Fada Freddy, Dongodi, Daradji, Family, toujours les mêmes, toujours cette belle énergie et l'Afrique également que vous mettez toujours en avant à travers vos tenues aujourd'hui. C'est magnifique, c'est de la broderie qui vient du Sénégal, c'est ça?
Oui, ça vient de la Médina, ça vient de Dakar. C'est fait par Shera, un des big créateurs qui ouais. nous accompagne depuis longtemps.
Ouais.
Donc bon, tout le monde sait que Dakar, c'est quand même the place.
N'est-ce
on
pas
parle de, voilà. Mais voilà, parlons de toute l'Afrique. De toute façon, je pense que l'Afrique est en mouvement.
Ouais.
Même pour la mode, la musique et tout ça. Donc voilà, on est en place.
D'ailleurs, vous étiez sur scène sous la canopée des Halles il y a deux jours, le 13 juin, à l'occasion d'un week-end d'événements labellisé Africa 2020. C'est génial, même si c'est tombé en contexte de pandémie, ça permet de mettre en valeur toutes ces cultures d'Afrique. Ça avait été une programmation très riche. D'ailleurs, il y a eu plein d'événements hein, tout au long de l'année qui ont été un peu stoppés. Mais c'est vrai que la saison a été un petit peu rallongée en raison de la crise. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir représenter ces talents d'Afrique à l'occasion de ce label Africa 2020?
Ça veut simplement dire que le combat contre le corona n'est pas gagné, mais que l'Afrique a résisté et l'Afrique résiste encore parce que la culture africaine est toujours là et de plus belle à être représentée même à la canopée à Paris. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas endormis pendant les périodes de couvre-feu et d'autres.
Ouais.
Nous étions en pleine création. Et c'était le moment de délivrer cette créativité et surtout de rentrer en communion avec un public qui nous attendait quand même depuis très 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 longtemps,
ouais.
Dans Paris, quoi. Dans Paris, donc voilà, c'est un moyen de dire, écoutez, nous sommes des bons survivants, nous sommes encore là, donc autant en profiter et puis voilà, montrer que la culture africaine, elle résiste, elle est là et voilà.
Les invités donc de l'Africa Break qui se profilent à l'horizon et vous serez sur la scène de la condition publique de Roubaix pour un concert. On va y revenir dans un instant. C'est donc jeudi, ouverture des portes à 19h30. Ça commence à 20h30. Juste dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'il est important de réserver en raison toujours de ces restrictions sanitaires. On donnera toutes les informations dans un petit instant. Alors heureux de venir du côté de Roubaix à la condition publique pour ce festival Africa Break de la radio africaine et les garçons.
Très heureux parce que ça fait du bien de revenir sur scène, enfin entre guillemets, parce que voilà, il y a pas eu beaucoup de concerts depuis un an et demi, tout le monde voit un peu le contexte, mais je crois que on est justement là pour inviter les gens à passer à autre chose, pour qu'on soit un peu plus dans un monde plus positif, parler d'espoir. Parler surtout d'Afrique, parce ouais. que je crois que l'Afrique, comme il le disait Fada, a fait partie de cette résistance-là face à cette pandémie-là. Et justement, on va tourner la page avec ce concert qui va se tenir à la condition publique.
Ouais.
Donc moi, j'invite toute la famille là, qui est en Belgique, aux alentours, à Lens, à Roubaix, à Lille, parce qu'à Lille, on y était il y a quelques temps, c'était il y a plus d'un an, et voilà, je les invite à venir en masse, qu'on se fasse un très bon concert, un très bon show, on va célébrer la vie, et ça se passe ce jeudi. Soyez là.
Alors, vous serez accompagné de vos musiciens, on y reviendra dans un instant. Alors, plus de 20 ans de carrière, des milliers de concerts à travers le monde. Après ces restrictions, j'ai lu dans une interview que l'un de vous disait, en tout cas si c'est vrai, que vous vous êtes senti un peu séquestré, même si la sécurité était prioritaire. Mais vous disiez, il était aussi important que l'on retourne à nos libertés. Alors, ça a été un peu compliqué, cette crise. Bon, vous peut-être un petit peu moins que d'autres artistes, mais c'est vrai que lorsqu'on a une vie d'ensemble, sur les artistes africains qui ont été beaucoup bousculés pendant cette période. C'est quoi le regard que vous portez justement sur les artistes au Sénégal? Comment ont-ils vécu cette pandémie? Alors je sais que vous avez diffusé une petite vidéo en décembre dernier adressée au gouvernement avec un message pour dénoncer l'interdiction faite aux musiciens de jouer dans les débits de boissons alors que les restaurants restaient ouverts. Et du coup, c'est quoi votre regard sur cette situation? Et c'est vrai qu'au Sénégal, les restrictions et les couvre-feux, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec ici où quand même les gens sortent, etc. Là, ouais, personne, pas un chat, pas une souris, pas un cagnard dehors.
Les couvre-feux.
Alors dites-nous un petit peu comment ça a été vécu pour vous et les artistes également au Sénégal.
Bah écoutez, on s'est un peu érigé en donneur d'alerte et à stipuler que les artistes étaient un peu enfermés. Bon, on accepte parce que de toute façon, il faut se protéger les uns les autres,
ouais.
Et qu'il est important de respecter les mesures barrières et tout le reste. Et que malheureusement, on n'est pas assez structuré comme dans certains pays où il y a une intermittence, par exemple, pour les travailleurs du spectacle. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, ça veut dire que quand l'État décide qu'il va sortir un milliard ou quelques milliards pour la culture, si c'est distribué facilement, ceux qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas vont venir s'infiltrer, et donc on a une mauvaise distribution de cet argent là qui fait qu'au bout du compte, voilà, il y a des artistes qui sont actifs, qui ne vivent que de ça et qui ne sont pas évalués par rapport à cette répartition et qui sont lésés. Et ce qui fait que donc on était là et on a dit il faut faire attention pour tout ce qui est sécurité sociale, c'est le moment de l'édifier, donc pour protéger la population. Et puis c'était aussi une manière de dire quand les artistes en ont marre et qu'ils ne se produisent pas, la population frustrée qui n'arrive pas à manger et qui est chez eux, et qui chez elles, parce que parfois il y a des maisons où certains dorment le soir pour laisser le lendemain d'autres dormir le matin, parce qu'ils sont en bloc dans une seule, dans une chambre. Et ces gens-là, il faut penser à eux. Et quand ils auront plus de place où dormir, parce qu'ils sont séquestrés, ils ont l'impression d'être séquestrés par rapport à la, par rapport à un couvre-feu, il va y avoir un ras-le-bol. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une révolution. Donc on avait prévenu, et ça n'a pas tardé. Quelques temps après, il y a eu une révolution parce qu'il a
suffi... Ça a été le déclencheur, l'affaire Sonko. Ouais. On va y revenir dans un instant, ça a été un déclencheur, mais c'était aussi un ras-le-bol de...
Un ras-le-bol général.
D'abord un ras-le-bol, avant que ce soit politique, c'était d'abord un ras-le-bol que...
À cause des abus.
À cause des... Voilà. Et puis les gens se sont dit, nous on est chez nous, on a deux solutions. La première, c'est qu'on on sort pas et on crève. Ou bien on décide de reprendre notre dignité en main parce qu'on veut manger sans mendier. Donc on va sortir et on va s'arracher notre liberté, et ça a été le cas.
Ouais, et puis bon, c'est comme il le dit, je crois qu'à un moment donné, il y a eu des abus, parce qu'on ne peut pas comprendre, ok, les gens, on les laisse travailler et les artistes ne peuvent pas bosser. On s'est rendu compte qu'en décembre, il y a eu des policiers qui sont allés dans des endroits, dans des pubs, dans des petites salles, et ils ont interdit carrément aux artistes de s'exprimer. Et ça, on ne pouvait pas comprendre ça, donc on s'est mobilisé. Et voilà, on a tapé sur la table. Mais bon, après, il y a eu d'autres enchaînements.
On va y revenir. Mais justement, c'est l'occasion aussi de vous parler de ce projet de loi sur le statut des artistes qui avait été voté fin 2020. Qu'en est-il? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment mis en place, ce n'est pas vraiment effectif.
Qu'en est-il? Les artistes se battent. Les artistes se battent. C'est vrai que le contexte est très compliqué. Parce que tout simplement, le statut de l'artiste, en tout cas en Afrique, il y a plusieurs volets. Je crois il y a un volet très social, il y a un volet aussi qui est plus ou moins politique. Justement, nos politiques nous font miroiter avec des promesses. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes comprennent qu'ils doivent se prendre en main. Et heureusement que il y a quand même des petites organisations, il y a des
coalitions. Il y a plus des jeunes que des anciens. Les anciens, ils restent un peu avec leurs acquis, ils ne bougent pas trop. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est une question de mentalité?
Je pense que c'est plutôt une question de mentalité parce que au désavantage des uns et des autres, certains s'octroient l'avantage d'avoir un nom et d'avoir des acquis et de dormir sur leur laurier en disant tout va bien, donc tant pis pour les autres. Et d'autres savent que si l'un d'entre nous est touché, tous les autres le sont à un degré divers. Et donc, ils se bougent, ils essaient de faire bouger les choses. Et voilà. Et nous essayons de nous ranger de ce côté-là, parce que autrement, l'artiste est très vite politisé. Et après, c'est bouche bée. Tu n'as plus droit à la parole parce que tu as déjà encaissé. Et on connaît cette formule qui est quand même assez courante, qui est monnaie courante dans le monde de l'industrie musicale.
Et puis les gens essaient de se mobiliser quand même. C'est vrai que peut-être pour les jeunes, comme tu disais, il y a un aspect plus technique. Il y a Internet maintenant. Il y a
tout ce qui est... Une ouverture sur le monde.
Voilà, sur le monde. Donc ils comprennent, ils savent, ils prennent en compte les enjeux. Même si c'est pas tous les anciens quand même qui restent de côté, parce qu'il y a une certaine mobilisation, mais disons que nos politiques ne nous aident pas. Et je pense que comme on dit en Wolof, nimble ne se fait que l'orle borom, c'est-à-dire c'est à nous-mêmes de nous organiser et de faire avancer les choses. Il y a bien sûr il y a actuellement la SODAV au niveau du Sénégal. Voilà, on a aussi des artistes qui font bouger les choses, quoi. C'est pas tout le monde, mais je pense que il faudra qu'on se prenne en main. Moi, en tout cas, je me dis que l'avenir sera positif pour la musique en Afrique.
En tout cas, j'y crois. Moi, j'ai envie de dire que l'aide politique n'est pas une aide, c'est une forme de corruption. Mais l'aide sociale, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, parce que il faut parler justement de d'une industrie de masse, parce qu'on a besoin d'une industrie de masse qui va sécuriser les jeunes et ceux qui ont envie de se lancer dans la culture. Parce que depuis que le corona est là, j'ai certains de mes élèves, parce que de temps en temps on donne des cours, on fait un peu des masterclass, qui ont désisté parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus la force de continuer parce que voilà, les portes se sont fermées.
Ça a tué beaucoup d'artistes, hein, d'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se relever. Ouais. Elles sont juste les personnes qui étaient déjà ancrées qui vont continuer à se relever. Mais on voit justement, on en parlait tout à l'heure, que la pandémie a bousculé beaucoup de certitudes à travers le monde, des économies historiques qui s'effondrent, des géants du monde qui disparaissent, des populations qui repensent leur façon de vivre. C'est peut-être aussi, on l'a vu, et surtout, tout le monde a été... surpris que du coup la pandémie n'ait pas autant touché le continent africain, même si on a eu quand même des pertes humaines, mais beaucoup moins que partout ailleurs dans le monde. Ça permet en fait de dire ça redistribue un peu les cartes, et c'est pas l'homme qui est à l'origine de ça, mais plutôt la vie, le hasard, voilà quoi. Ouais. Ancêtres, on va dire.
Ouais, moi je peux dire, moi en fait je dirais juste que en fait, l'Afrique a toujours été dans la résilience. C'est-à-dire que, je me permets de dire ça, on était préparés. C'est juste pour dire que, par exemple, au Sénégal, c'est vrai, quand il y a eu les restrictions et tout ça, plein de gens qui faisaient des métiers, les métiers de la rue et tout ça, c'était compliqué, tu vois. Mais au final... je crois que ça a permis aussi à des gens de réfléchir sur de nouvelles directions. Nous, les artistes, de réfléchir à d'autres horizons. Je pense que plein de gens se sont mis même à l'agriculture maintenant. Ils ont diversifié les sources. Je crois qu'aujourd'hui, on ne doit plus dépendre que de la politique. Je crois que cette pandémie nous a fait comprendre plein de choses, que les cartes étaient redistribuées et on arrive à une nouvelle page.
Alors, ça va nous permettre de faire une petite parenthèse toujours pour parler de cette pandémie, parce qu'on a eu beaucoup de pertes au niveau de la culture, au niveau des artistes, notamment le grand Tchonsek du côté du Sénégal, mais il y a aussi Mori Kanté, Manu Dibango, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y a eu plein d'autres artistes qui sont partis pendant cette pandémie. C'est quoi le regard que vous portez sur ça? Parce que c'est quand même vos anciens, tous ces grands noms de la musique.
C'est une perte énorme. C'est une perte énorme parce que ce sont des bibliothèques. Tout ce que tu as eu à citer sont des bibliothèques. Et on dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est une partie de ces bibliothèques, de cette bibliothèque africaine qui a pris feu. Mais les racines du baobab sont là parce qu'ils ont implanté en nous un savoir-faire, une résistance, une pensée africaine et dans l'unicité. Donc une pensée humaine. Et cette pensée-là, nous la véhiculons, nous portons leur flambeau et nous leur sommes reconnaissants. Maintenant, le travail appartient à la génération actuelle de tenir ce flambeau-là et de mettre les racines au plus profond du sol, parce qu'ils nous regardent de là-haut et il faut qu'ils soient fiers de nous. Donc le travail continue. La graine qu'ils ont semée en nous va être perpétuée.
Alors juste pour revenir rapidement sur ce mouvement et cette affaire Sonko, en fait, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que nos gouvernements, ils sont un peu amnésiques, parce que on se souvient comment le président Macky Sall est arrivé au pouvoir avec ces jeunes qui étaient portés par le mouvement, notamment Yorna Mar, mais aussi beaucoup de jeunes de la rue qui se sont levés. On a eu des pertes humaines, ça a été le cas en mars dernier. Et vous, ça vous a complètement bouleversé, vous avez publié des messages notamment sur les réseaux en disant que on en avait marre de mourir, de voir nos frères tomber en fait.
Absolument. Et moi, en tout cas personnellement, j'étais un peu déçu de la réaction surtout des autorités, parce que vu le contexte, tu vois, il pouvait gérer cette situation-là. Mais je pense que les gens sont toujours emportés par leur fougue politique.
Alors quand ils arrivent au pouvoir, ils ont l'impression qu'ils vont tout changer.
Voilà, comme le mot que tu as utilisé, l'amnésie. Et je pense que le malaise est très profond. Et justement, pendant qu'il y a eu les événements, nous on a porté notre voix. On avait choisi d'être à côté du peuple. Et justement, c'était pas une question d'opposants. Tu vois, du problème que les gens ont parlé, de mœurs et tout ça. Mais il y avait un malaise, il y a un malaise. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. On sortait juste de... Enfin, on était en pleine pandémie. Je pense que ce n'était pas le moment quand même d'utiliser le peuple, tu vois, pour des combats politiques. Je pense que... en tout cas, je m'incline vraiment devant la mémoire de tous ces jeunes-là qui n'ont pas survécu à ça, qui sont morts. Mais bon, c'est... Ils sont pas décédés vainement. Je pense que il y a eu un message, et ce message là, c'est qu'aujourd'hui ces politiques là, en tout cas au Sénégal, en tout cas, je prends l'exemple du Sénégal, on doit arrêter de faire de la politique. Je crois que il y en a eu assez. C'est vrai, le Sénégal a connu depuis les indépendances à maintenant, on a connu des régimes, tu vois, plus ou moins france-africisés. Si je peux utiliser ce mot, je crois qu'aujourd'hui on en a marre de ça. Et justement, ce ras-le-bol-là a été exprimé par ces événements-là. C'est malheureux qu'il y a eu des vies de si jeunes, tu vois, tombées. Et justement, j'ai été frustré de voir des policiers ou des nervis entre guillemets tirer sur des jeunes. Et ça, pour moi, c'est resté dans la mémoire du Sénégal, et que ces jeunes-là qui sont tombés, je pense que le Sénégal mérite des dirigeants qui sont à l'image du Sénégal, qui est positif, de ce Sénégal-là qui doit connaître son indépendance, une indépendance, et aussi un Sénégal qui doit aller de l'avant, une Afrique unie, one love.
Et justement, on voit, justement, pour regarder devant et parler du futur, et c'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'on voit une jeunesse africaine debout, des jeunes qui n'ont pas la même mentalité que les générations d'avant, qui vraiment sont déterminés à faire changer les choses, et qui sont fiers également d'être africains. Alors, ça a été toujours aussi l'un de vos combats à travers vos œuvres, des messages pour conscientiser la jeunesse africaine. On voit que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Oui. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous de vous rendre compte que vous aviez une vision, un message à porter, et qu'aujourd'hui, on est sur le chemin, en fait?
C'est une fierté, certes, mais pas encore une satisfaction, parce que nous n'avons pas encore eu gain de cause. À savoir qu'on est vraiment fiers de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui sait que son seul salut se trouve entre ses mains et non entre les mains de l'Europe, et que la formule de la main du dessus et de la main du dessous, c'est fini. On n'en veut plus, personne n'en veut. Aujourd'hui, les jeunes veulent juste des relations en partenariat équilibré,
ouais,
entre l'Afrique et le reste du monde. Parce qu'ils savent ce qui leur revient de droit. Aujourd'hui, ils sont bien plus instruits, ils savent ce qui leur revient de droit, ils savent que l'Afrique appartient aux Africains, et qu'importe leur couleur, mais on n'accepte plus qu'on nous appelle un pays pauvre, alors que nous sommes assis sur l'or, le pétrole et tant d'autres ressources. On n'accepte plus que le patrimoine soit pillé, ni par les complices intérieurs. Je parle de ces marionnettes qui ressemblent à des dirigeants et qui sont à l'image, qui sont même pas à l'image de l'Afrique, hein, parce que on dira qu'ils ont été là par un coup de poker ou par je ne sais quelle magie électorale. Mais en tout cas, le message est fort, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est prête à résister pour que sa liberté soit des plus simples et qu'elle joue son rôle dans la construction, dans l'édifice de l'humanité. Donc nous sommes prêts aussi à amener notre contribution.
Et on voit aussi, quand on regarde à l'extérieur du continent, un petit peu partout où il y a des afro-descendants, au vu aujourd'hui des questionnements sur les identités, en Europe c'est compliqué, donc les gens se crispent, etc. Et puis on accuse toujours l'étranger, on sait comment ça se passe. Et on a vu toutes ces affaires de racisme, que ce soit aux États-Unis, même en France, là dernièrement, on a eu une avalanche d'affaires de racisme. Mais on voit quand même que maintenant on sort, je ne sais pas si vous vous souvenez de la mobilisation le 2 juillet dernier autour d'Assa Moussa Traoré, il y a eu une marée humaine comme ça, c'est du jamais vu, mais on voit quand même que tous les afros un petit peu partout en diaspora disent non, on en a marre. Il y en a beaucoup aussi qui bah justement tu m'en parlais tout à l'heure, Aïssa, il faut retourner vivre au pays, que bah on regarde vers le continent, on se dit il y a des choses à mettre en place, on veut retourner, on va s'y préparer en fait. Vous avez ce regard là aussi?
Oui, on a ce regard là et quand on disait que être africain, c'est pas une question de couleur. Justement, c'est dans le cœur. Et je crois que l'Afrique, berceau de l'humanité, en tout cas, les populations doivent être conscientes que l'Afrique, c'est pas. Je veux dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus fort que les racistes. On est beaucoup plus fort que ces gens-là qui portent un regard inconscient face à une couleur, tu vois. Et ce qui se passe en France ou aux États-Unis, ça touche le monde. Ce qui peut toucher quelqu'un qui habite en Asie ou ailleurs, ça touche l'être humain, tout simplement. Et au-delà de ça, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, au niveau de la diaspora, même aux États-Unis, hein, ce qui s'est passé avec George Floyd, ça a touché le monde entier. C'est pas juste George Floyd, mais c'est, pour moi, c'est quand on touche à un être humain, on touche à une entité, on touche à la terre entière. Et aujourd'hui, je crois que les gens doivent être conscients. Maintenant, il y a, c'est vrai, il y a quelques années, quand on voyageait par exemple, on allait en Autriche, on était descendu de l'avion et on nous avait mis de côté. On ne comprenait pas, on se disait, mais en fait, ils ont laissé tout le monde passer parce que nous, on était black, on nous avait mis de côté. On est arrivé en France il y a peut-être plus de 20 ans, plus de 25 ans, on arrivait dans le métro, on ressentait des regards et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà de ça. Les violences policières ou les violences racistes, je crois que l'homme est beaucoup plus fort que ça. En tout cas, on est beaucoup plus fort que ça. Et
la réponse est de connaître son histoire. D'ailleurs, vous le dites dans Bayonne,
ouais.
Notamment.
Khamfinga Diem, en Wolof. Khamfinga Diem. Ouais. Et justement, nous, on a appris avec Cheikh Anta Diop, avec, je peux citer d'autres exemples, plein d'exemples. On sait que l'Afrique a beaucoup apporté à l'humanité. Et aujourd'hui, je crois que l'humanité aussi doit rendre grâce à l'Afrique.
En tout cas, les couleurs, ouais. Les couleurs apportent de l'harmonie dans le tableau de la vie. Ouais. Donc, nous croyons profondément que être raciste, c'est simplement se tromper de colère, parce que c'est pas là qu'il faut diriger notre feu. Donc, nous avons un combat qui est plus grand, qui est le combat de l'humanité, le combat de la vie. Il faut mettre de côté ces illusions, cette colère mal dirigée. Nous pouvons utiliser cette énergie pour construire quelque chose de plus positif. Et c'est ainsi que nous voyons l'Afrique. Nous voyons l'Afrique en couleur et nous voyons l'Afrique comme le bateau de sauvetage quand l'humanité, justement, sera là dans une guerre économique. Parce que si on observe ce qui se passe aujourd'hui...
C'est l'inverse, en fait.
Mais effectivement, il y a une guerre. Même à travers le coronavirus, il y a une guerre. Et tout le monde le sait, les Chinois sont devant. Ils ont gagné la guerre. Ils ont tiré profit avec tout ce qu'on utilise pratiquement vient de la Chine. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que cette guerre-là, elle n'a servi absolument à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est simplement revenir à la simplicité. Ce n'est pas avec des pesticides, accélérer la production avec des pesticides qu'on va sauver l'humanité, on va se rendre plus malade. Retournons à la simplicité où on aime l'autre parce que simplement il est humain, parce qu'il fait partie de la nature, parce qu'il fait partie de l'univers. Et voilà, je pense que c'est notre seul salut.
Alors moi, ce que j'aime bien aussi avec vous, c'est que vous faites ce que vous dites ce que vous faites, parce qu'il y a aussi de nombreuses actions, je ne les ai pas toutes, mais je sais que vous avez mené pas mal d'actions de terrain dernièrement, participé à des opérations de reboisement avec le mouvement Sénégal Naïsset. Naïsset est pour nettoyer en fait les rues de Dakar, de Rufisque, ramasser les ordures, planter des arbres également. Il y a aussi un projet avec Village Pilote, une association qui s'occupe des enfants, c'est ça?
Oui.
Vous êtes beaucoup investi, mobilisé souvent enfants à travers les associations et notamment Lueur d'espoir qui accompagne les enfants démunis. Ça, c'est entre les concerts, entre les prises de voix en studio, il y a les engagements toujours depuis le début des Aradji.
Toujours, depuis longtemps, et pour nous, c'est ça le vrai combat, c'est ça se passe sur le terrain. Et je veux dire, à l'opposé de ce que font les politiques, on est sur le terrain du social, on est sur le terrain avec les enfants. Aujourd'hui, quand on voit Dakar, on voit une photo publiée, une photo satellite, où on voit Dakar avec plein d'immeubles, tu vois, et pas trop d'arbres. Tu vois, on est offusqué, on se dit quand même, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, quand on voit que l'ancien aéroport de Dakar est morcelé en terrain, ouais. Le président a donné quelques lopins de terre pour qu'on puisse en faire un parc naturel. Ouais. Bon, il y a mieux à faire. Je pense qu'aujourd'hui, Daradi Family, c'est un symbole, c'est une fondation. Et cette fondation-là, je crois qu'on donne aussi la voix aux enfants, aux démunis, mais aussi à l'environnement.
Bravo pour tout ça, le temps passe tellement vite, yeah. On va vous écouter en musique dans un petit instant. On rappelle le rendez-vous aux auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas, il faut réserver en raison des restrictions, ce serait dommage de faire le déplacement et de ne pas avoir de place, donc yeah. N'hésitez surtout pas avec les Daradji Family. Alors le festival c'est du 17 au 19, trois soirées de festivités avec en ouverture les Daradji Family sur la scène avec les musiciens. Vous serez combien sur scène?
Alors...
Ça va chauffer, hein?
Bah, on sera à 7 environ.
Waouh!
7 ou 7 000.
Ouais.
D'accord.
En tout cas, on est prêts. Et je pense que Paris a goûté au feu de la vie ce dimanche-là. C'est le dimanche passé à la Canopée. Et on remet les bouchées doubles, hein, pour Roubaix. Donc, voilà, on va retrouver le feu de la vie. Ce jeudi à Roubaix.
Inscrivez-vous sur le site de la Condition Publique, c'est laconditionpublique.com. Inscrivez-vous. Je vais juste vous laisser dire un dernier mot chacun. J'ai pas envie de vous laisser partir, mais bon, c'est la vie.
On se donne rendez-vous sur la scène à Roubaix.
Okay. Oui. Hein? Et puis voilà. L'amour. Il y a que ça. Merci.
Et mon nous, alors à bientôt les Daradji. Merci
Africa
beaucoup.
Africa Radio.
Dara sopa que dara. qui m'a lobotomisé. Agrandir le champ de ma focale, c'est casser l'écran, c'est dire Vogel. La lumière bleue dans ma rétine, un tranquillisant paraît-il. Affaler l'écran me regarde vivre, se reposer ou bien être libre. Bloqué par les images, mon cerveau est lessivé. Je vois le monde à travers un prisme, télécommandé sous l'emprise. Il m'offre des fleurs, des bouquets de satellites. Moi je t'offre sur beat des couplets qui débitent. Le rappeur devient un Pulitzer, la télé un chewing-gum pour les yeux.
Africa, ça c'est ma radio. Africa. Africa, ça c'est ma radio.
Bye bye.